France Musique.
Merci Philippe Cassard. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle note du traducteur.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui perce, qui troue l'histoire de la musique. Troisième émission autour du palimpseste, avec en invité le compositeur Jérôme Combier, qui viendra nous parler de ce qui hante un compositeur, que ce soit un son, une œuvre ou un autre compositeur. Et comme chaque samedi, un zoom sur une œuvre de la fin du XXe siècle et un son soigneusement effeuillé. Le Cri du Patchwork, thème numéro 8, épisode numéro 3, séquence numéro 1.
Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine.
De la partecipazione.
Stavolta vincere è bello. Bello come il sorriso.
La radio. Les ondes radiophoniques, tous ces sons, parasites, petits bruits, chuintements, bruits blancs qui émaillent notre écoute de la radio, surtout lorsque l'on cherche une station. D'ailleurs, en changeant simplement de station de temps en temps, on obtient une œuvre en collage spontané. Comme ici, une pièce faite de radio, Tangental Psychodelico, issue d'un disque nommé Radio Palestine, comme une radioscopie d'un pays, comme si un pays s'identifiait par son univers radiophonique.
Falkland's posse, king size every time. A special quest here from Tony Grant, who was sent in for the Johnny Nash competition. Sorry you weren't one of the correct entries, Tony.
On apprécie ici la singularité de l'habillage bruité de la transmission radiophonique. Des sortes de petites voix extrêmement aiguës, flûtées, qui échappent à l'entendement. Le son de la radio, c'est aussi les timbres de voix qui s'entremêlent, se croisent, se juxtaposent. Donnons-leur du sens, comme le fait Bernard Vittet, dans ce ramassage sélectif récupération-recyclage. Vous y reconnaîtrez peut-être des voix qui ne sont plus.
Je trouve qu'une grande partie du genre humain est totalement sans intérêt.
Il faut faire avec,
savoir serrer les dents.
Oh, 400-500 feet into the sky, and it's a terrific race, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now. All the humanity and all the fans are just screaming around here. I don't do it.
Qui, lors d'une catastrophe effroyable qui menace la Terre,
ton Dieu déchaînera la septième plaie. Laissez-vous de reparaître à mes yeux, car le jour où vous verrez mon visage, vous mourrez.
Alors je vous remercie d'avoir...
À la peine de mort. À la peine de mort. À la peine de mort.
Simon, Anders, Simon.
Délai de réflexion.
Le greffier, en effet, très indélicat, subtilisait depuis plusieurs mois des pièces de certains dossiers qui l'ont
conclu. Pour faire un sport pareil, vous savez.
Nice car, isn't it?
Patra, ou presque. Les mythes de Pharaon, ils prennent
des bournes. Conduit. On est parti.
C'est infligé.
C'est comme ça. Bien.
Un adolescent, Chel Matinia, neuf à vous, près du domicile de ses parents, font certains témoignages, ils fillettent.
46 prix du magasin du pauvre représenté, sublimé de la nière, écho.
un décor rose au cachet de cravate qualité travesti, robes sont en forme de ch... Ceux-ci sont effets, en effet. En
projet, et dans les chats, ça se fait dire
de nous, mais au plus près, que cela vous rapporte, que cela indispose et que j'en... Oui, d'ailleurs, bien à la radio et à la télévision.
La radio, par son émission sonore si particulière en fonction du poste que l'on utilise, fascine. On joue avec elle, on compose avec elle, comme lorsque l'on utilise le son mono d'un tout petit poste au loin.
And discipline remains mercifully.
Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
Yes, yes.
No, it is it.
I'm sure of it.
Le début de Wish You Were Here, des Pink Floyd. Une autre manière de composer avec la radio, c'est de la sampler, la faire tourner en boucle, en bourrique, pour y insérer sa propre musique, comme l'a fait Xavier Garcia dans Radio Rama. Attention, réglage stéréo.
Plus en détail, mais séparément, la seconde diffusion stéréophonique de quelques exemples de physique amusante que permet le procédé de stéréophonie dirigée. Mesdemoiselles, préalablement va débuter, si possible, certains réglages chez l'auditeur, d'ailleurs simples, qui, pour la deuxième fois déjà, sont à réaliser en possession de quelques conseils du diable. Et pourquoi nous allons vous donner dans les meilleures conditions possibles pour la deuxième fois depuis 1950 la production stéréophonique indispensable pour écouter une larme du cavalier sur les antennes de France 1.
Mademoiselle préalablement va débuter certains réglages chez l'auditeur, d'ailleurs simple, qui pour la deuxième fois déjà sont à réaliser en possession de quelques conseils du diable. C'est pourquoi nous allons vous donner, dans les meilleures conditions possibles, pour la deuxième fois depuis 1950, la production stéréophonique indispensable pour écouter une larme du cavalier sur les antennes de France 1 50 et Paris Inter 902.
En superposant sa propre musique à celle de la radio, c'est comme si celle-ci devenait un instrument à part entière, que l'on pourrait jouer comme les autres. Helmut Lahrenmann utilise des postes de radio disséminés dans l'orchestre de son œuvre Contra Cadence. Au-delà de ce que chaque radio diffuse, ce qui nous intéresse ici, c'est le bruit de la radio.
Thank you.
concorso potranno essere richiesti alla delegazione.
Un contracadet von Helmut Lachenmann. Es spielt das Südfunk-Sinfonieorchester. Die Leitung hat Michael Wieler.
La radio comme producteur de bruit. Lorsqu'on se balade sur les ondes courtes, la fameuse bande AM, on peut percevoir des musiques de loin, comme plongées dans une grisaille bruitiste. Des apparitions, des disparitions de voix, dans des langues différentes. Karlheinz Stockhausen commence ainsi Hymnen, comme s'il cherchait des fréquences à capter, capturer des hymnes, pour en faire le terreau de sa composition. La radio comme une œuvre électro-acoustique.
Cereals, don't.
United Nations.
Si dans cette œuvre de Stockhausen, Hymnen, les sons de radio sont fixés sur bande, 10 ans auparavant, John Cage joue, lui, à contrario, avec l'aléatoire d'un poste de radio. Dans Radio Musique, en 1956, John Cage donne à chaque interprète une partition, indiquant selon un minutage précis quand est-ce que les postes de radio doivent être allumés, éteints, lorsque l'on doit changer de fréquence. Évidemment, on ne contrôle pas le résultat de ces actions, mais qu'importe. Écrit pour 1 à 8 interprètes, avec chacun un poste de radio, Radio Musique est une œuvre pour radio libre.
Thank you.
Tant qu'à faire, laissons composer les ondes radio elles-mêmes. C'est à peu près l'idée de Jacques Brodier, avec son filtre de la réalité. Une installation combinant des antennes pour capturer les ondes radio et des cordes tendues, mises en vibration selon ces ondes. Le tout est contrôlé par un modulateur optique réagissant à la lumière. Jacques Brodier, à travers ce filtre de la réalité, fait entendre ce que la radio ne nous dit pas, ce que les ondes sont devenues après avoir absorbé des quantités d'autres bruits, des parasites, devenant des nuages d'ondes complexes. En les filtrant, Brodier donne de la voix à la radio. Paradoxal, mais pas tant que ça.
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Jérôme Combier, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai invité parce qu'en observant vos partitions, les titres surtout de vos partitions, on voit souvent les mots fantôme, ombre, qui émaillent comme ça de vos partitions. En particulier, par exemple, dans votre dernier quatuor, qui s'appelle « Parler longuement de fantômes », qui a été créé par le quatuor Bella l'année dernière au Festival d'Aix-en-Provence. J'avais une première question, Jérôme Combier, c'est est-ce que composer, c'est négocier avec ce qui nous hante?
Oui, probablement. Ouais, je pense que c'est peut-être pas que ça, mais c'est inévitable d'avoir, à un moment donné ou à un autre, d'être en face de cette question.
Quand on apprend à composer à partir de quelqu'un, à partir de ce qu'on a en tête, ou bien est-ce qu'on demande, par exemple, un professeur vous demande de composer comme si ça venait de nulle part, etc.
Ah, je pense que c'est précisément un mouvement de balancier entre ces deux pôles, à savoir pouvoir acquérir une connaissance et qui se fait qu'en fonction de quelque chose qui existe déjà, et en même temps pouvoir conquérir son champ personnel, qui là se fait dans le vide. Je pense qu'un compositeur est forcément, à un moment, doit poser son rapport à cette histoire, à ces fantômes, quelque part. Et alors, on pourrait dire qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter que les fantômes sont forcément là dans la plume, dans l'écriture, et que, quoi qu'on écrive, ils vont filtrer, ils vont apparaître. Ou alors, on peut décider que c'est une matière en soi avec laquelle travailler, et que c'est une source aussi inépuisable.
Est-ce que des sons peuvent devenir des fantômes aussi?
Ça, je sais pas.
Ou quelque chose qui vous hante, en tout cas.
Oui, oui.
Parce que dans votre musique, souvent, on a ces matières soufflées, par exemple, qui ont vraiment émaillé de votre musique fréquemment, et le rapport à l'ombre musicale, même, on pourrait dire, c'est-à-dire des sons comme des négatifs de sons, sont des matières qu'on cherche avec les instrumentistes, ou c'est quelque chose qu'on invente comme ça qui,
Je pense que c'est un mouvement de va-et-vient perpétuel au cours de sa propre histoire. Mais peut-être que pour moi, ces matières un peu ombres, un peu effacées, un peu c'est peut-être aussi une image d'un temps qu'il est toujours un peu vain de vouloir contrôler. Or, le compositeur est quand même celui qui crée un temps proprement musical, une autre forme de temps. Et en même temps, donc il y a quelque chose d'un peu démiurge là-dedans. Et en même temps, c'est un peu vain parce que ça reste complètement vaporeux et immatériel, comme la musique même.
Effacer la musique, c'est lui donner un autre goût, finalement.
Ouais, peut-être. Effacer. Je sais que l'idée d'effacement, que je ne suis pas le seul à pratiquer, moi, m'est venue dans un petit dessin que j'avais vu de Giacometti, qui était donc un petit personnage, toujours, mais c'était en dessin, pas en sculpture, donc qui se tenait debout, les bras le long du corps, fait au crayon, et je m'étais aperçu que Giacometti avait gratté avec sa gomme le ventre, le corps du personnage, mais gratté jusqu'à gratter la feuille même, jusqu'à vouloir effacer derrière la feuille même le dessin. Et du coup, ça donnait une sorte de texture pelucheuse à cet endroit-là. Et ça m'avait assez... je pense que c'est une des choses qui m'avait marqué.
Dans une de vos pièces, Gone, la première qu'on va écouter tout de suite, qui date de 2010, vous faites référence à Samuel Beckett, comme un auteur qui vous a pas mal hanté aussi, finalement. Et vous essayez de vous en détacher un petit peu dans cette pièce-là, en utilisant des trucs, en particulier l'utilisation d'électronique. Vous trouvez dans l'électronique une continuité aux instruments. Là, on va écouter un passage dans lequel on passe des extrêmes graves au son soufflé. On en parle juste après pour voir justement quel est ce rapport à ces sons qui vous hantent depuis si longtemps. Extrait de Gone de Jérôme Combier, ici enregistré par l'ensemble Accroche-Notes en live. On l'a entendu, il y a quelqu'un qui tousse, qui se superpose à votre musique, Jérôme. J'aimerais citer juste une phrase de présentation que vous avez écrite pour cette pièce. C'est « Au départ, je me souviens qu'il y avait la recherche d'un timbre précis, d'une qualité de son, une matière noire, profonde, sans repère, ni rythme, ni hauteur, des bruits de frottement, de souffle, de pression d'archet, comme origine de tout son ou même de toute idée à naître. » C'est-à-dire qu'on part d'une matière, d'une forme de dessin. On parlait de dessin avec Giacometti. Là, vous voyez des formes sous forme de dessin qu'on peut effacer, qu'on peut maîtriser de cette manière-là.
Oui, et en même temps, il y avait quand même au départ cette pièce qui s'appelle Solo de Beckett, qui a été commandée par David Warilo, qui est le grand acteur beckettien. Et Solo commence par un râle vraiment de l'acteur qui est à la fois un râle, à la fois une prise d'air. Alors il commence comme ça. Sa naissance fut sa perte. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus si c'est le texte exactement, mais c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment l'acteur Warilo. Et donc il y a cette idée de prise d'air, de choses avant le son, avant l'organisation des mots, avant l'organisation de la musique, et qui finalement devient une matière presque aussi intéressante que cette organisation bien faite des sons que pourrait être une musique.
D'ailleurs, en plein milieu, on entend dans cet extrait comme une sorte de phrase quasi lyrique au violoncelle mélangée à la clarinette. C'est-à-dire, mais toujours en fond, en filigrane, on a toujours cette matière soufflée ou cette matière respirée. C'est un jeu comme ça que vous aimez avoir dans vos compositions, d'avoir différents plans de lecture, c'est-à-dire la note, le son, le bruit, tout ça mélangé.
Oui, oui, c'est vrai que je considère que la note, la mélodie même, le lyrisme et le vocal, la vocalité, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mélodies et de lignes mélodiques dans ce que je fais. Les harmonies, l'accord, enfin en tout cas plutôt les accords que l'harmonie, le rythme, la matière en soi, le timbre, tout ça je considère que sont des forces qui à tout moment veulent tirer la musique chacune vers elle, parce que la cohabitation n'est pas forcément facile. Un compositeur ne peut pas tout gérer à la minute, toutes ces forces-là. Et donc au cours d'une composition, elles prennent chacune à un moment, un donné ou à un autre, un espace plus qu'une autre, et donc elles coexistent. Et c'est vrai que du coup, on entend une bribe de mélodie, puis un accord qui émerge, puis tout d'un coup, ça devient une matière vaporeuse qui a tout effacé, et puis de là réémerge une autre chose, une autre idée.
Dans cette idée d'effacement, là, puisque notre thématique c'est le palimpseste, vous êtes venu aussi avec des pièces qui sont parties de morceaux qui vous ont hanté, et qui sont en filigrane aussi à l'intérieur de vos pièces. Là en particulier une qui s'appelle Lichen, de 2013, pour piano, donc c'est un piano solo finalement, c'est une sorte de petit concerto pour piano.
Oui, c'est un peu ça. En même temps, comme je suis pas forcément le côté prométhéen du grand virtuose soliste
contre l'orchestre,
l'orchestre ou avec que l'orchestre va mettre en valeur, pas une chose qui m'est chère comme un modèle de rapport humain. Donc, si à quelques moments il est soliste, à d'autres il est aussi avec les autres instruments.
Ce morceau s'appelle Lichen. Alors quand j'entends le mot Lichen, moi je pense tout de suite à Gheorghe Ligeti. Avec cette manière de composer en lichen, c'est-à-dire ces matières assez diffuses, quelque chose qui n'a pas de branche, qui n'a pas de racine, mais qui est toujours présent et qui n'arrête pas de se répandre. Est-ce que c'est comme ça que vous avez composé cette pièce?
Non. D'accord. Pas du tout.
j'ai tenté le coup.
Le lichen, c'est plutôt ce qui recouvre quelque chose pour moi et qui fait que la chose recouverte n'est plus visible. C'était surtout cette idée-là. Et la lenteur aussi. Avec laquelle le lichen, enfin son propre temps à lui, recouvre les choses, les pierres ou les végétaux. Il y avait cette idée dans lichen d'avoir à la fin un piano qui est complètement préparé, dont le timbre est complètement recouvert par la préparation, puisque le pianiste à la fin ne joue que des notes préparées à l'aide de tiges de bois ou de bouts de gomme dans le piano. Donc c'était cette idée que à un moment donné, toutes les notes sont altérées et recouvertes.
américaine de Jérôme Combier. Alors ici, on entend bien le piano recouvert, donc avec cette idée d'érosion, peut-être finalement, de ce piano, du timbre du piano, donc préparé. Et là, vous me disiez, c'est une citation, en fait, un petit peu quelque part. On est dans l'ordre, pas peut-être de la citation, mais de ce fantôme qui apparaît tout d'un coup. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, là pour l'or, il y a un modèle d'origine qui est, là on vient de s'arrêter, c'est Oiseau triste de Ravel, bon, complètement déformé, et puis à un moment on a reconnu un peu plus facilement Alborada del Grazioso au début de cet extrait qui est complètement fragmenté, puis qu'on perçoit assez facilement à un moment, donc c'est le piano de Ravel. Oui.
Le piano de Ravel qui se retrouve dans Jérôme Combier. Est-ce que c'est un peu vampirisé ou bien c'est s'accaparer pour ne plus être du Ravel, finalement ?
Oui, c'est... Et puis c'est même ne pas donner forcément un temps, parce que là on en parle et que je vous le dis.
Mais bien sûr, là on donne le secret du magicien. Quoi.
Le oiseau triste, bon, il est loin. Après c'est aussi un esprit, un rapport à un répertoire que j'aime et... Mais souvent, j'essaye aussi, après, ça dépend, mais il y a des degrés divers de ce qu'on veut donner à entendre ou pas, ou de ce qui constitue la musique comme une architecture invisible, qui n'est su que par moi, enfin.
À composer, comme là, on vient d'entendre dans cette pièce, Lichen, comme une sorte de musique, alors moi j'appelle ça des musiques à trous, mais c'est un petit peu péjoratif quand c'est dit comme ça. C'est-à-dire, c'est une musique avec des bribes, comme si tout allait se constituer au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut parler d'érosion, de déconstruction? Pour mieux reconstruire ensuite.
Je sais pas. Je raisonne pas forcément comme ça.
Ah, très bien.
Mais c'est vrai que je raisonne par fragments. Enfin, peut-être plutôt l'idée du fragment.
La fragmentation d'une idée.
Oui, des choses qui ont un temps d'apparition, de respiration assez court. En même temps, contrebalancé par un tentative. Je sais pas si j'y parviens, mais de très grande fluidité. Alors c'était assez contradictoire, mais j'aime bien cette contradiction des petites choses qui vont s'interrompre les unes les autres et en même temps essayer de trouver quelque chose d'extrêmement fluide qui fait qu'on a du mal à... qu'on n'arrête pas le discours musical. Je sais pas.
Dans cette pièce-là, Lichen, les citations, enfin pas les citations, mais plutôt les musiques qui sont là présentes pour le jeu du piano, vous parliez de Oiseau triste de Ravel, donc Brouillard et Étude pour les notes répétées de Debussy, encore du Ligeti. Quelquefois, vous avez des commandes, en fait, à partir de pièces qui existent du répertoire. Je pense à Manière Noire, vous êtes venu avec une pièce. C'est une commande qui a été faite par Royaumont, c'est ça, pour un concert autour des Leçons de Ténèbres de Couperin.
Alors, oui, et en même temps, c'est une pratique qui est celle de la transcription. Et travaillant étroitement avec les musiciens de l'ensemble Kern, j'ai été souvent amené, depuis maintenant 15 ans, à écrire pour un programme des transcriptions. Pour donner une cohérence, pour faire entendre à un moment donné un Debussy ou un Couperin, alors qu'on n'est pas un ensemble de musique ancienne, mais dans un contexte un peu autre. Alors du coup, il y a cette pratique de la transcription, qui est presque comme un compositeur ferait ses gammes en même temps, quelque part. Il y a un peu de ça, et le modèle est très reconnaissable. Thank you.
François Couperin, comme gelé, je dirais, enfin bon, je sais pas si c'est le terme. Ouais. En tout cas, c'est une manière noire de Jérôme Combier à partir donc du début des Leçons Ténèbres de François Couperin. Quand je dis gelé, c'est vraiment cette impression-là que j'ai, c'est-à-dire comme si tout d'un coup le temps s'arrêtait. On parlait de temps suspendu un petit peu. On y est finalement.
Oui, en même temps, cette Leçon de Ténèbres, la troisième, je crois que c'est la lettre CAF, et aussi quelque chose comme ça d'un peu suspendu. Oui, puisqu'il y a tout d'un coup une sorte de brèche qui s'ouvre à l'intérieur d'un Couperin très reconnaissable, où j'ai pas fait grand-chose, pas modifié grand-chose, où tout d'un coup, qui est le commentaire de... Donc cette brèche s'ouvre, où c'est le commentaire de la lettre hébraïque, qui est complètement étirée et ornementée de quarts de ton, donc on est dans une impression d'une chose qui se déforme, et d'un temps qui s'ouvre, oui, je pense. Enfin, je sais pas.
c'est comme ça que vous le voyez. Moi, je l'entends d'une autre manière, en tout cas. C'est ça qui est bon, parce qu'on parlait des quarts de ton. Quand vous l'utilisez, vous parlez souvent de cette altération que peut donner la microtonalité à un système figé comme celui du piano, par exemple, qui est un système figé, accordé, avec des demi-tons égaux, tempérament qu'on dit égal. La microtonalité qui est très présente dans votre musique, elle sert à ça, c'est-à-dire à altérer les instruments qui ne peuvent pas être altérés.
Bah là, par exemple, il n'y a pas de piano, donc pas forcément. Dans le cas de Lichen, oui, un petit peu. Mais non, je le vois comme un... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette manière de déformer quelque chose. Tout en étant dans une très grande horizontalité. L'aspect mélodique reste très, très, très horizontal dans ce que je fais. C'est aussi une manière de... Je me souviens, à un moment où j'ai commencé à travailler ça, de renouer aussi avec un type d'écriture très polyphonique, contrapuntique, qui m'avait toujours fasciné dans mes études de Bach et autres. Et ne pas perdre cette sensation d'écriture. C'est une sensation d'écriture aussi pour moi. Je pense que c'est ça.
Là, dans la dernière pièce qu'on va écouter ensemble, parler longuement de Fantôme, qui est votre quatuor, une de vos dernières pièces, on entend justement des bribes de choses qu'on paraît reconnaître. Enfin, moi, je me suis fait avoir, par exemple, il y a des moments où je me dis, oh, tiens, ça ressemble à ça, puis vous m'avez dit, non, c'est pas du tout, ça, c'est moi. Donc, on se laisse perdre, en fait, dans des sortes de vignettes, de fragments, on parlait de musique fragmentaire. Là, typiquement, vous avez cité directement vos sources, et Debussy, Ravel et Dutilleux en particulier, parce que lorsqu'on parle de quatuor, on vous a commandé un quatuor, automatiquement, ça vous est venu à la tête, en fait, ces musiques-là.
Ah oui, je pense que c'est vraiment là, pour l'or... Un phénomène anthologique.
D'accord. Alors l'anthologie, on n'en a pas parlé encore.
Mais c'était aussi un phénomène traumatique parce que j'avais fait un premier quatuor il y a très longtemps qui avait vraiment été alors un échec. Enfin moi c'était une catastrophe.
D'accord.
J'avais écrit la pire chose et je l'ai jeté. Je voulais plus en entendre parler. Donc du coup après 10 ans plus tard me demander un quatuor, forcément il y a ce souvenir là. Qui a réapparu, et puis oui, ces fantômes du quatuor français qui sont venus très vite sur la table, dans la tête, et j'arrivais pas à m'en défaire. Enfin, vraiment, il y avait ça assez étrangement, parce que ça m'arrive pas en fait d'avoir, c'est pas si souvent, enfin, même pas normalement, d'avoir des choses dans la tête qui m'empêchent de trouver moi mon propre chemin.
Vous parliez de phénomène anthologique, ça c'est un néologisme inventé par Jacques Derrida,
oui, c'est ça.
Mais aujourd'hui défini de toute façon un courant artistique depuis les années 2000, vraiment des musiques qui se basent sur le passé, comme ça données en filigrane ou bien vraiment effacées dans des musiques électroniques par exemple. Vous vous identifiez à ce courant-là, anthologique ?
Non, pas vraiment, parce que c'est un courant de musique pop électronique, donc c'est pas... J'aime bien l'idée en fait. Et puis j'ai bien aimé ce titre, si je m'apprête aujourd'hui à parler si longuement de fantômes, donc c'est dans le livre de Derrida, spectre de Marx. Donc c'est pas, on est très loin de mes fantômes très français bourgeois du XXe siècle. Non, mais j'ai bien aimé cette idée du fantôme, et Derrida en parle énormément. Il y a un petit film aussi, Ghost Dance, on peut le voir sur Internet, où on voit parler de fantômes pendant 5 minutes, c'est assez marrant.
Je vous propose d'écouter la fin de votre quatuor, donc parler longuement de fantômes. On va entendre comment réapparaissent ces fantômes et on pourra même identifier, mais finalement, c'est pas le but. Là, on écoute du Jérôme Combier.
Thank you.
la toute fin de Parler longuement de Fantôme au Quatuor de Jérôme Combier, créé par le Quatuor Bella l'année dernière, donc en 2014. Merci Jérôme d'avoir partagé avec nous vos fantômes.
Merci beaucoup.
Là, les derniers qu'on a entendus, c'était en particulier Ravel, Debussy, Dutilleux, mélangés les uns sur les autres. En fait, c'est un peu ça par le Quatuor. Et puis à la toute fin, tout ça qui s'érode par l'électronique, qui reprend tout ça, qui mélange en fait.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
On vous retrouve avec l'ensemble Kern prochainement, donc le 6 juin, au Festival Manifest, organisé par l'IRCAM, dans un programme qui s'appelle Fado Erratico. Et ensuite, le 19 juin 2015, pour la reprise de votre création Downlight, que vous avez réalisée avec le chorégraphe Alban Richard, qui prend la suite d'un projet Nightlight qui avait été fait avec le compositeur Raphaël Sendo, c'est bien ça?
Voilà, exactement. Et Fado Erratico est un projet de Stefano Gervasoni, et Kern en est l'interprète. Voilà.
Très bien. On retrouve toutes ces infos sur le site de l'ensemble Kern, c'est ensemble-kern.com. Merci Jérôme.
Merci beaucoup.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
La citation peut être un procédé très utile pour associer différentes musiques. Lorsque vous écrivez une œuvre, la citation vous permet de penser à certaines connexions. On pourrait dire des connexions mystérieuses, mystiques même. En les travaillant, vous pouvez les rendre évidentes dans une œuvre. Certaines de mes citations apparaissent tout à fait brouillées, ce sont des quasi-citations en quelque sorte, ou bien des citations fantômes, si vous voulez, qui transforment l'élément d'origine jusqu'à un certain degré. Ce sont des intermédiaires entre de pures citations et une absence de citation. Je me réfère à Varèse, à Mahler, mais ce ne sont pas des citations explicites. Il s'agit plutôt de suggérer l'idiome de ces compositeurs. Notre musique représente toutes les musiques que nous avons entendues au cours de notre vie. Tout cela transparaît dans notre propre langage. Peut-être seulement 5% de ce que nous écrivons est vraiment original. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes contemporains de toutes les musiques qui nous ont précédés dans un sens psychologique tout à fait étrange. Nous vivons tous dans un seul monde, au sens géographique, et je peux concevoir que n'importe quelle musique, dans le temps et dans l'espace, est susceptible de pénétrer notre propre musique. Je pense qu'il y a une seule musique.
Zoom sur Black Angels de George Crumb. Lorsque George Crumb écrit Black Angels en 1970, il n'a pas prévu que l'œuvre serait associée au désastre de la guerre du Vietnam. Crumb raconte « Ce n'est que vers la fin de la composition que je me suis rendu compte du fait que l'œuvre avait absorbé de nombreux courants néfastes qui pullulaient à cette époque. Je n'avais aucunement l'intention de rédiger une œuvre de protestation ou de militantisme anti-guerre. Mais vers la fin de mon travail, il devint évident que Black Angels avait attiré ces éléments psychologiques et émotifs de l'environnement, car la musique a cette capacité. On pourrait ajouter que George Crumb lui-même a cette capacité à attirer tous les sons, compositeurs, esthétiques, dans sa musique ductile et limpide. The Sound of the Bones and Flute, le son des os et une flûte. Black Angels est une œuvre à programme. Et chaque titre des 13 images des pays sombres, comme le dit le sous-titre de l'œuvre,
nous donne toutes les clés. Par contre, ces titres ne mentionnent pas l'apparition de réminiscences déformées, triturées, amplifiées. Est-ce que vous avez perçu la citation ? Jouer avec beaucoup de pression sur les cordes apparaît ici comme effacer ou gratter une citation du Dies Irae, ce plein chant à l'origine de quantités d'œuvres associées à la mort. Dies Irae, Dies Ila, solvet seclum in favilla. Mais peut-être l'entendrez-vous mieux ici. Comme si le Dies Irae avait explosé, détruit puis reconstruit en points épars, en jeux sifflés, en brume électrique. Ce Dies Irae qui hanta tant de compositeurs, ici, devient un souvenir grinçant, à peine reconnaissable. Et puis, il y a chez Crumb l'intimité qu'il entretient avec les compositeurs du passé. Le Quatuor, la jeune fille et la mort, de Franz Schubert, comme derrière un voile. Commenté, lacéré par les battements d'ailes de violon. George Crumb demande aux musiciens de jouer les instruments en changeant la place de l'archet et de la main gauche sur le manche, créant ainsi une fragilité, un son qui pourrait casser à tout moment, une justesse relative et frissonnante. À propos de frissons, voici God Music. Lorsque le Quatuor se transforme en harmonica de verre.
Crumb nous dit « L'œuvre dépeint un voyage de l'âme, dont les trois étapes seraient le départ, la perte de l'état de grâce, l'absence, l'anéantissement spirituel, et le retour, la rédemption. » Et pour clore ce retour, il utilise à nouveau un fragment, un éclat de Schubert, un écho déformé sous lequel grouillent ces insectes électriques nocturnes, le rendant méconnaissable, comme le son du quatuor à cordes qui n'a eu de cesse de s'amplifier, de se déformer, devenant un souvenir effacé, une sorte de palimpseste du quatuor à cordes. Notre troisième épisode du Cri du Patchwork sur le palimpseste. Merci à Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui à la technique Philippe Palares. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son, du moindre bruit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernier épisode du Cri du Patchwork sur le palimpseste. Je recevrai le compositeur Philippe Leroux pour évoquer les questionnements qui s'impose à lui lorsqu'il travaille en palimpseste sur des textes, des prétextes ou des musiques qui nous feront remonter à Guillaume de Machaut au XIVe siècle. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez également podcaster cette émission. Chers écoutants,
si je fais 1, Tagalam, 1, voilà. 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, voilà. 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
Vous êtes bien sur France Musique. Il est 17h, l'heure de passer la main à Arnaud Merlin et son All That Jazz. Bonjour Arnaud Merlin.